Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, tu sais qu'on a annoncé récemment, l'abandon du Salon de l'Auto, mais le Salon de l'Auto 2021 à Montréal n'aura pas lieu et on nous a annoncé qu'il y aurait sous une forme de Salon de l'Auto virtuel qui se déroulerait sur 4 jours et qui serait gratuit pour la population. On se pose beaucoup de questions à savoir comment ça pourrait avoir lieu et sous quelle forme. Avec nous, Denis Dessureau, évidemment, qui est président du Salon de l'Auto. Allô, Denis?
Bonjour les gars.
Bonjour, bienvenue parmi nous. Donc, grosse semaine du côté de l'organisation du Salon de l'Auto de Montréal. En gros, là, comment ça va se passer pour l'édition 2021 du Salon de l'Auto de Montréal?
Bien, vous en aviez parlé la semaine dernière, là, qu'avec les annulations des autres salons, que Montréal, bon, c'est sûr que l'étau se resserrait. Et effectivement, on a dû prendre la décision d'annuler la version présentielle à cause des conditions actuelles du gouvernement et de la santé publique.
Décision crève-cœur, j'imagine, ben oui.
Ben c'est certain, parce que c'est quand même 200 000 visiteurs qui viennent d'année en année au Salon de l'Auto. Oui, il y a des gens qui reviennent pour le plaisir, il y en a qui sont là pour magasiner. Puis vous savez, à travers le Canada, il y a 6 salons principaux, 6 salons majeurs, et ça déplace près d'un million de personnes. Donc, il y a un intérêt pour des salons d'auto. Maintenant, à cause de la situation, puis les règlements sont pas, les règles sont pas prêtes de changer, on peut pas recevoir plus de 250 personnes par salle. Alors, au Palais des Congrès, ça nous donne rien de louer un palais complet pour avoir à peu près 1000 personnes dans tout le palais.
Aussi bien de louer un sous-sol d'église rendu là.
Voilà, les autos ne rentreraient pas.
C'est ça.
Mais papes mobiles.
Oui, voilà.
Mais c'est ça. Donc, on a dû prendre la décision, mais c'est sûr que jusqu'à il y a un mois, on y croyait encore de pouvoir faire un salon si les règles sanitaires avaient changé. Mais en même temps, on veut rester présent dans l'esprit des gens. Vous savez, ça fait depuis 1914 que la corporation organise des salons de l'auto. Ça aurait été la 78e édition. Ça fait partie des mœurs. Après Noël, c'est le Salon de l'Auto. C'est le Toys R Us des parents. Et on veut rester présent dans l'esprit des gens. Et puis, la mission première du Salon de l'Auto, vous savez, ça a toujours été d'informer, comme le guide de l'auto d'ailleurs, ça a toujours été d'informer les gens de qu'est-ce qui est disponible sur le marché pour les aider à faire un choix. Et nécessairement, ce qui nous différencie de l'Internet, c'est qu'on peut... pardonnez-moi l'expression, là, mais il y a le feel and touch. C'est qu'on peut s'asseoir, on peut toucher, on peut sentir, on peut voir si le siège est confortable, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui nous différencie de l'Internet.
Et à une époque où on ne peut plus rien toucher sans se laver les mains, c'est un petit peu plus compliqué, là.
Ça devient compliqué de vouloir désinfecter un véhicule à chaque fois que quelqu'un s'assoit.
Oui. Le volant aurait été usé, fini, avant même que la voiture sorte du salon. C'est ça, oui, c'est un peu un problème. Si je me trompe pas, c'est la deuxième fois dans l'histoire du Salon de l'Auto de Montréal que l'événement n'a pas lieu. On se souvient qu'il y avait eu un incident au début des années 2000 au Stade olympique où on avait dû annuler l'événement parce qu'il y a un morceau du stade...
Pour cause d'intempéries, oui.
Pour cause d'intempéries. D'intempéries. Il y a un morceau du stade qui s'était détaché puis était tombé dans le kiosque Subaru. Il n'y a pas eu d'autres moments où le salon avait été annulé. Là.
Pendant la guerre, probablement?
Non. Effectivement, dans notre histoire, le salon avait arrêté justement pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Je m'en souviens pas.
C'est ça que j'allais dire. Moi, je m'en rappelle. On n'était pas allé à ce moment-là.
C'est ça.
Mais il y avait eu un break d'à peu près une vingtaine d'années là, à partir de la fin de la guerre jusqu'à ce qu'on reprenne le salon tel qu'on le connaît aujourd'hui en 1969.
Ah bon, OK.
Oui. Et donc, depuis 69, là, il y en a eu tout le temps. 99, bon, c'est lorsque le toit nous est tombé sur la tête au stade. Et maintenant, on est au palais. Et curieusement, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des chances qu'on retourne au stade olympique?
Ouais.
Et vous savez, la question se pose, mais la réalité est que au stade olympique, l'aire de jeu est plus petite que simplement le niveau 2 du Palais des Congrès.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, l'environnement a changé. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant. Le stationnement s'est rendu très résidentiel, donc ça deviendrait compliqué.
Et le stade lui-même a vieilli aussi, là. Ses installations n'ont pas été modernisées depuis les Olympiques ou presque.
Sauf qu'on s'entend.
Ça fait très vieux, là. Il y a eu d'autres événements automobiles au stade. C'était le cas du salon organisé, du salon de la voiture sport et modifié organisé par John Scotti. Puis c'était pas très glorieux comme environnement, là, le stade olympique.
Mais on conserve quand même de super bons souvenirs du salon de l'auto au stade olympique. Oui. Mais les gens, quand ils nous posent la question par rapport à ça, moi, je veux dire, je regarde l'industrie aller. Il y a deux fois plus de variété de voitures aujourd'hui qu'il y en avait à cette époque-là. Donc, c'était facile d'avoir. Puis même à cette époque-là, on était limité dans l'espace. Ça commençait à être un problème à la fin parce qu'on mettait des compagnies autour de l'aire principale. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est impossible de penser, surtout que les véhicules sont de plus en plus gros, prennent de plus en plus de place, de penser qu'on pourrait installer tout le monde juste au stade olympique. C'est ça qui est malheureux parce que on s'entend, là. Le Palais des Congrès, pour l'instant, c'est ce qui convient. Mais l'accessibilité à ce donné palais-là demeure le problème principal. Et j'imagine que vous devez le ressentir, ça aussi.
Bien, c'est clair. C'est clair que l'accès à Montréal, puis il y a des gens carrément qui ne veulent plus venir à Montréal. Donc ça, oui, c'est un fait. Par contre, on est desservi au Palais des Congrès par le métro qui est sur le palais, justement.
Ouais.
C'est sûr qu'on cette année, on avait même, pour les gens qui achetaient des billets en ligne, on offrait même un service de réservation de stationnement aux alentours. Donc, on essaie de trouver des solutions. Mais pour en revenir à notre salon virtuel, qui va être de 5 jours pour corriger, parce qu'on a parlé de 4 jours tantôt, là, mais ça va être du 20 au 24.
24 au 24,
24. Du 20 au 24. Et puis, ce qu'on veut faire, ben, c'est que on veut, comme je vous mentionnais tantôt, on veut être présent. Et on veut encore montrer ce qui va être les nouveautés qu'il va y avoir cette année. Et ça, ben, ça va se faire avec le concours de nos amis, les manufacturiers. Si les manufacturiers embarquent à pieds joints dans le projet, et qu'ils veulent accepter de faire des présentations, parce que je vous cacherai pas que notre but, ça serait quand même d'avoir des véhicules au palais pour faire des présentations live devant les journalistes et de pouvoir les diffuser, mais en même temps dans chacun des kiosques virtuels, les gens pourraient trouver des photos, des vidéos et même que les exposants seraient en mesure de mettre leurs liens sur leur site web parce qu'ils ont tous de très beaux sites web, ils peuvent construire, les gens là, les visiteurs peuvent construire leur véhicule selon les couleurs avec les roues qu'ils veulent et c'est ensuite faire du 360 à l'intérieur. Donc on ne peut pas réinventer la roue.
Parce que c'est ça, ma prochaine question, c'est moi, si je décide d'aller visiter ce salon de l'auto virtuel que vous comptez faire, qu'est-ce que je vais retrouver virtuellement sur ce site-là que je ne retrouverai pas sur un site de manufacturier ou sur YouTube par quelqu'un qui aurait filmé une auto ou ailleurs sur le web? Qu'est-ce qui va vous différencier du contenu numérique qui existe déjà?
OK. Pour ce qui est du contenu numérique, je ne vous le cacherai pas. Si moindrement quelqu'un fait une recherche, ils vont réussir à trouver pas mal tout ce qu'il va y avoir. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rassembler ça. On veut créer des pavillons à l'intérieur du site virtuel. Mais le principal objectif, ça va être de... Vous savez, au Salon de l'Auto à Montréal en janvier, le fait qu'on est le premier salon au Canada, on a toujours une quarantaine de dévoilements.
Ouais.
C'est ce qu'on veut faire. On mise là-dessus, on veut la participation des manufacturiers pour qu'on puisse présenter ces nouveautés-là. Et après ça, vous savez, là, c'est du work in progress. Là. Ce qu'on vous dit là, c'est sûr qu'il va y avoir des améliorations en cours de route. C'est notre but, on veut aller là. On y croit fermement. Maintenant, est-ce que les manufacturiers vont embarquer avec nous? Ça reste à voir. On leur a présenté vendredi le projet. Beaucoup d'enthousiasme. Il y avait des questions, mais on s'en vient avec quelque chose, on va être présent, ça c'est clair.
Pour les gens peut-être à la maison, là, quelle forme va prendre ce salon-là? Est-ce que ça va être un site web dédié, disons, au Salon de l'Auto de Montréal? Est-ce que ça va être une application? Comment ça va fonctionner?
C'est une plateforme web qui s'adapte aux tablettes ou aux téléphones. Donc, les gens... puis c'est ce qu'on voulait. Nous, on veut que ce soit gratuit parce qu'on veut que ce soit accessible pour tous. Les gens vont pouvoir aller sur le site, mais c'est sûr que moindrement qu'ils vont vouloir avoir une interaction avec un manufacturier, poser des questions, ou en tout cas, j'en oublie, les gens vont devoir s'inscrire. C'est la seule chose qu'on va leur demander, c'est de pouvoir s'inscrire pour que on ait cette information-là. Et après ça, le manufacturier pourra communiquer, si la personne le désire, leur envoyer une information. Mais il y aura même des chats en ligne. Les gens pourront poser des questions. Il y aura des personnes entre 10h et 20h pour chacun des manufacturiers qui pourront répondre à des questions en ligne.
Moi, je me fais l'avocat du diable. Disons que je m'en vais de visiter ce site-là. Je suis un internaute qui ne paie pas pour aller voir ce site-là. Est-ce que je me promène de façon virtuelle à travers les kiosques? Est-ce que je peux aller chercher l'information que je veux sans être obligé de donner mon courriel à des compagnies qui vont m'envoyer de la promotion à outrance par après?
Oui, on veut que ce soit effectivement disponible, que les gens puissent se promener, aller voir ce qu'il y a. C'est s'il y a une interaction, c'est là où on va demander aux gens. Puis c'est, écoutez, on se le cachera pas. C'est la façon avec laquelle on attire les manufacturiers. En bout de ligne, c'est des leads, hein, que les,
ben oui,
les
absolument.
Manufacturiers veulent avoir. Donc, mais oui, on veut que les gens puissent aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des pavillons, ces choses-là. Oui, ça, c'est clair. On veut faire ça.
Moi, de l'autre côté, on s'entend que le Salon de l'Auto de Montréal, c'est pas un OSBL. Il faut faire des revenus avec ça. Comment vous y trouvez votre compte?
Parce qu'il n'y aura pas de prix d'entrée, là, contrairement aux 16 ou 18 $ là, je me rappelle plus qu'il fallait payer pour rentrer au palais, là.
Oui, non, effectivement, nous, ce qu'on veut faire, puis c'est ce qu'on fait avec on a proposé aux manufacturiers, on veut s'autofinancer, tout simplement. Il n'est pas question de faire un profit là-dessus. On veut que les coûts qu'on aura à débourser pour la plateforme, c'est ce qu'on va diviser avec les manufacturiers. Et s'il y a moyen pour nous de vendre de l'espace publicitaire, parce que, vous savez, on peut mettre des choses à l'intérieur du salon, ben ça sera des sous qui pourront nous aider aussi à continuer. Puis on y va avec les voitures, mais on aimerait ça ajouter d'autres volets, parce que là, on manque d'espace au Palais des Congrès, mais là, virtuellement, on a des pavillons, on peut en créer comme on en veut. Là.
Ouais, ouais, donc, c'est ça.
On veut développer, on veut que ça soit attrayant pour le visiteur, puis on veut qu'ils entrent, on veut qu'ils trouvent de tout. Alors, je veux pas trop m'avancer parce qu'il y a encore des choses à confirmer, mais on veut que ça soit vraiment, ça va être un happening, puis les gens, je pense qu'ils vont avoir du plaisir à se promener sur le site virtuel.
Évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de salon de l'auto physique cette année, ça va permettre à la plupart des salons automobiles, que ce soit régionaux ou internationaux, de s'asseoir et de prendre le temps de réfléchir pour peut-être se réinventer, parce qu'on sait que le salon de l'auto n'est pas un événement qui, de façon générale, va en augmentant. Il y a des constructeurs qui délaissent de plus en plus les salons. C'est peut-être un peu moins vrai à Montréal, à Toronto, mais si on regarde les salons américains, c'est épouvantable. La moitié des constructeurs y vont plus. Alors, la formule doit être réinventée. Je pense que le pattern actuellement, on l'a étiré pas mal. Je trouve que Montréal avait fait du beau travail l'année passée avec sa section verte. On avait réussi à aller chercher des nouvelles façons d'attirer le public. Mais il en demeure pas moins que l'achalandage ne va pas en augmentant. Est-ce que c'est une année de transition pour vous qui vous permet peut-être de vraiment penser à repenser la formule?
Écoutez, on était déjà en mode changement. On savait qu'il fallait se réinventer. On l'a vu à Détroit, hein, Détroit qui a déplacé ses dates de janvier à juin. Bon, on sait que c'est à cause du CES, du Consumer Electronics Show, principalement, mais ils avaient commencé à réinventer. Malheureusement pour eux, la pandémie est arrivée, on n'a pas pu voir les résultats de ça en juin dernier, mais nous, on était déjà en programmation changement. On l'a vu avec notre portion électrique qu'on a triplé en 2020. Ce qu'on est en train de faire présentement, oui, on précipite les choses à cause de la pandémie, mais ce qu'on est en train de faire présentement va être là pour rester dans les futures éditions du Salon de l'Auto. Il va falloir, ça va devenir des salons hybrides. On va créer de l'information qui sera accessible pour les gens de l'internaute, et on aura un salon physique pour les gens qui veulent venir encore une fois s'asseoir et comparer les véhicules dans un même endroit.
Donc, le projet que vous êtes sur le point d'amorcer de façon virtuelle, ce n'est pas temporaire, c'est là pour rester en amont du salon physique qui reviendrait.
Exactement.
OK.
Et le fait qu'il n'y ait pas eu du tout de salon de l'auto dans les 6 derniers mois, à part un salon en Asie, et qu'il n'y en aura visiblement pas dans les prochains mois, et qu'aucune autre organisation a présenté un plan comme celui de Montréal, qui est d'avoir un salon virtuel, est-ce que c'est un moyen peut-être de se démarquer par rapport aux autres salons plus traditionnels en Amérique du Nord?
Écoutez, c'est sûr, comme j'ai dit à mon équipe, la pression est là. On va être les premiers à le faire en janvier. Nos amis à Toronto devaient prendre la décision le 15 octobre, et finalement, quand ils ont su qu'on faisait l'annonce cette semaine, qu'on annulait, ils l'ont fait en même temps que nous, la même journée. Donc, ils vont être les deuxièmes. Moi, où je suis fier, c'est qu'on sera les précurseurs, et écoutez, c'est nous, là, on va se faire les dents, on va faire des essais, on va faire des erreurs, c'est sûr, mais si au moins ça peut amener les autres salons à s'améliorer en cours de route, bien, le nôtre sera encore meilleur l'année prochaine.
Je veux revenir, en terminant, sur l'accessibilité au salon, et je dirais peut-être aussi la collaboration de la ville à cet événement-là. On sait qu'actuellement, l'automobile n'a pas très bonne presse au niveau de la mairie. Ça va pas très, très bien ensemble. Dehors les chars, exactement. Puis, on a constaté, moi étant journaliste puis me présentant au Salon de l'Auto à peu près à tous les jours, de constater à quel point c'est un cauchemar non seulement de se rendre, mais rendu sur place, la facilité de se stationner, l'accès, arriver avec une voiture électrique et se présenter devant une borne de recharge où il y a de la construction devant, c'est-à-dire qu'on a mis des panneaux puis on ne peut pas recharger la voiture. Il faut qu'il y ait une amélioration une meilleure participation de la ville à cet événement-là. Est-ce que vous sentez que vous avez un support de la ville, ou est-ce que vous êtes un boulet au pied de la ville de Montréal?
Et
c'est pas évident, hein?
Vous savez, là, je me mords les lèvres.
Hein? Non, mais c'est ce qu'on veut savoir, là.
Oui, mais écoutez, on n'est pas... Je pense pas qu'on fait partie de la liste des amis de Mme Blanc, là. Ça, c'est clair.
OK, on est là.
Oui, on est là. On a quand même une bonne collaboration de l'arrondissement de Ville-Marie, je dois le dire, parce que, vous savez, au Palais des Congrès...
Ils ont des retombées, là, c'est ça?
Ben oui, puis quand on arrive au Palais des Congrès une trentaine de kiosques à construire, puis 500 autos qui arrivent sur des flottes, on a besoin de louer et de réserver des espaces normalement de stationnement.
Bien sûr.
Pendant les 10 jours de montage, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars de frais juste pour occuper les rues, pour pouvoir transvider les véhicules.
Que la ville va vous charger?
Ben oui, bien sûr.
C'est effrayant.
Et à l'inverse, lors de la fermeture, bien, sur 72 heures, encore là, on a besoin de réserver, fermer des rues pour pouvoir rembarquer tout ça dans les véhicules, parce que le Palais des Congrès, initialement, dans les années 80, avait pas été construit pour des salons publics. C'était surtout pour des congrès.
Bien sûr. Et,
donc,
les congrès commerciaux, bien sûr.
C'est ça. Donc, l'accès pour les camions, c'est pas fait pour des flottes qui sont à moins de 24 pouces de terre. Il y a une rampe en colimaçon. Il n'y a pas grand-chose qui est capable de rentrer là-dedans. Donc, tout ça, bon, nous amène à avoir des frais qu'on n'avait pas, justement, quand on était au Stade olympique.
Ben, voyons,
on vit avec. On a trouvé des façons de travailler. Comme je vous dis, je réitère qu'on a une très bonne collaboration de l'arrondissement de Ville-Marie. Par contre, au niveau de la ville, ben là, toute la construction et les pistes cyclables qu'ils veulent mettre, là, ils parlaient même, bon, vous savez, la rue Saint-Antoine, qui était initialement, quand on est arrivé au Palais des Congrès en 83, on avait 5 voies de large. On est rendu à 2 voies de large plus une piste cyclable d'un côté. Et là, on veut en faire une plus grosse en enlevant le stationnement. Donc,
oui. On
va se retrouver avec peut-être...
En janvier, c'est un atout là, d'avoir 2 pistes cyclables comme ça, là, vraiment.
Oui, hein. Ouais, c'est ça.
Absolument.
Est-ce que vous avez déjà calculé, par exemple, quelles sont les retombées économiques d'un événement comme le Salon de l'Auto de Montréal, autre que les revenus que vous allez faire? Au niveau des hôtels, des restaurants, des attractions qu'il y aurait autour, des gens qui partent d'ailleurs que de Montréal, de la rive sud, de la rive nord, de la région de Trois-Rivières, qui vont s'en venir ici, qui vont dépenser.
Il y a beaucoup de gens qui vont venir des régions, qui viennent à Montréal une fois par année, puis c'est le dernier week-end de janvier. Là,
Ça, j'ai pas l'impression que la ville prend ça en considération, mais c'est beaucoup de sous qui rentrent dans les commerces avoisinant le Palais des Congrès, là.
Au niveau de la restauration, au niveau des hôtels, les hôtels sont pratiquement complets pendant les 10 jours précédents le salon et pendant les 10 jours du salon. Donc, effectivement, puis il y a 6 hôtels là, qui sont vraiment collés sur le palais et on peut vous le confirmer. L'étude, on ne l'a jamais fait. Par contre, c'est quand même facile de chiffrer quand on parle de dizaines de milliers, une dizaine de mille de chambres, de nuitées facilement. La restauration et tous les entrepreneurs qui sont appelés, vous savez, au niveau de l'éclairage, les points d'ancrage qu'on fait installer pour suspendre les toiles et les lumières, on parle de 700 moteurs. Pour des points d'ancrage, pour monter les structures. Mais il y en a tellement qu'on est obligé d'en faire venir de d'autres villes. Fait que c'est le plus gros, au niveau du salon, c'est le plus gros événement où on utilise le plus de lumière et de moteurs pour un événement de 10 jours. Donc oui, on fait vivre beaucoup de monde. C'est sûr que c'est une très, très grosse industrie.
Donc, le Palais des Congrès qui pourrait éventuellement voir l'asphalte disparaître autour pour mettre de la tourbe, on ne sait pas ce qui va arriver dans quelques années, mais un changement de location pour le Salon de l'Auto de Montréal pourrait éventuellement être envisagé, c'est ce que je comprends.
Non, écoutez,
non.
À moins qu'il y aurait une salle de plus de 500 000 pieds carrés qui se construirait dans les alentours, on n'a pas d'autre endroit. Vous savez, la place Bonaventure est fermée, c'est fini, il n'y a plus d'exposition là. Le stade, c'est plus petit. Il y a quand même la lumière au bout du tunnel, le palais va s'agrandir. Il y a des plans qui ont été présentés au gouvernement et je pense que c'était rendu au Conseil des ministres avant la pandémie. Là.
Mais c'est bien beau agrandir le Palais des Congrès, mais s'il y a encore moins de stationnement, s'il y a encore moins de facilité pour s'y rendre, ça améliore pas le sort. Parce que surtout dans le cas du Salon de l'Auto de Montréal, moi je veux dire, la réponse que j'entends souvent quand on se fait dire « oui, mais on a les transports en commun », OK, mais c'est un salon de l'auto. Fait quand tu parles à quelqu'un qui part de Drummondville, il ne prendra pas le métro puis les transports
en
commun.
Il n'ira pas stationner à Longueuil pour prendre le métro.
La personne
là,
qui demeure dans Rosemont puis dans Hunsic, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ouais. On peut prendre le transport en commun, mais quand tu viens en dehors de l'île, oubliez ça. Ça se fait à peu près pas.
Non, vous avez raison là-dessus. Là. C'est sûr que l'accès à Montréal puis l'accès au palais, ça peut devenir compliqué en voiture. Par contre, c'est ça, on est en train de travailler aussi, on planche sur des projets peut-être d'avoir des navettes, des stationnements incitatifs à proximité. C'est tous des projets qu'il faut qu'on travaille, mais j'ose espérer, puis de toute façon, pour en avoir parlé avec le président du Palais des Congrès, il va y avoir des améliorations au niveau des installations pour nous aider à rentrer du matériel dans l'agrandissement. Et j'ose espérer, puis ça, bien humblement, j'ai oublié de poser la question, à savoir s'il allait avoir du stationnement supplémentaire qui allait être inclus dans la nouvelle portion. J'espère.
Oui, c'est ça. Croisons-nous les doigts. Ben, en attendant, bonne chance pour ce salon virtuel qu'on va
évidemment... Ce sera une première, mais oui, on va suivre ça de près. Oui.
Nous, on va avoir une journée média qui va être un petit peu différente des autres années, c'est certain.
Il n'y a rien qui va être pareil dans les prochains mois, ça, c'est certain.
Ça, c'est sûr. Puis j'ai l'impression que le co-porte-parole de Denis Talbot cette année va être utilisé plus qu'à l'habitude pour ses compétences en techno parce que...
on va en avoir besoin cette année, là.
Exactement.
Effectivement. Et notre ami, notre cher Bertrand, qui Bertrand Godin, qui va en être à sa 20e année, on va avoir besoin de lui aussi.
Bon, ben ça marche. Alors, salutations à tout le monde, puis bonne chance avec cet événement-là.
Merci Denis.
Merci, bye-bye.